la remarquable synthèse de Catherine Vallée me permettra d'introduire vraiment facilement cette mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain. Comme ça a été dit tout à l'heure de façon très, très détaillée, je reprendrai quelques contextualisations de l'intérêt de cette mission et de sa naissance. Elle est née parce qu'il y a une prise de conscience tout à fait importante de l'intérêt de sauvegarder un type d'objet de la recherche publique, publique et privée, notamment des 60 dernières années, sur lequel jusqu'à présent le monde du patrimoine, à la période où cet intérêt a commencé, les gens du patrimoine ne s'intéressaient pas du tout à ces objets scientifiques et techniques, pour les raisons que je vous évoquerai ensuite. Et pourtant, il y avait une évolution très rapide des sciences et des technologies, comme vous le savez, parce qu'il y avait aussi également de grands programmes de recherche lancés dans les années 50 et qui ont continué après au niveau français. Vous avez la naissance de la Big Science. Je pense que Bernard Pellecker n'est peut-être pas encore arrivé, mais il nous parlera du LHC parmi d'autres types d'objets symboliques, en tout cas pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le patrimoine. Et donc, aussi une présence importante dans la vie quotidienne de tout ce qui est technologie que les citoyens n'avaient pas forcément remarqué de façon importante à l'époque et qui pourtant envahissait complètement la vie de tous les jours. Également un départ vraiment massif des chercheurs et enseignants et collègues à la retraite qui marque cette période des 60 dernières années. Et donc, on s'est aperçu qu'il était absolument essentiel de garder des traces matérielles de ces travaux, matériels et immatériels, parce que la préoccupation de rapprocher la société civile et le monde de la science a été mise en œuvre dans ces périodes-là, enfin, avec une prise de conscience qui commençait à prendre forme. Enfin, je crois que Catherine a vraiment bien développé tout ce contexte, donc je ne reviendrai pas dessus, je n'en serais pas d'ailleurs forcément capable de le faire comme elle, surtout. Mais en tout cas, une prise de conscience très nette, prise de conscience qui n'était pas toujours favorable à la partie patrimoniale, mais plutôt à la culture scientifique et technique, qui à ce moment-là n'englobait pas la partie patrimoniale, ce qui heureusement a pris une tournure un peu différente aujourd'hui. Donc des préoccupations qui nécessitaient de commencer à s'intéresser à tous ces objets, à tout ce savoir-faire, à toute cette mémoire, qui sont en fait un appui essentiel à cette culture scientifique et technique pour expliquer la science contemporaine aux étudiants bien sûr, mais aussi au public plus largement. Alors effectivement, puisque M. Nemoz l'a dit, j'en parlerai très, très rapidement, oui, on a eu une initiative en Pays de la Loire dans les années 96, auquel Catherine Vallée a effectivement contribué dans ce contexte-là, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une petite publication chez l'Harmattan qu'elle a coordonnée, dans laquelle on raconte cette histoire, et qui a été effectivement le début d'une initiative, d'un débroussaillage, d'une initiative à l'échelle d'abord locale puis à l'échelle de la région, dans les universités et organismes de recherche de cette région des Pays de la Loire. Simplement, lorsqu'en 2001, j'ai rencontré le directeur du musée des arts et métiers, qui était effectivement M. Toulouse à l'époque, et lors d'un colloque au CNRS sur les grands instruments scientifiques, il y avait déjà un début de réelle préoccupation sur la sauvegarde. Alors à Orsay, c'était sur les grands instruments. Hein, vous connaissez Soleil, vous connaissez tous ces gros instruments, ces gros accélérateurs qui posent beaucoup de questions et qui continueront à en poser, je pense, pendant un certain temps, parce que je ne crois pas qu'on ait encore trouvé de solution réelle pour savoir que garder et comment, mais qui sont des vraies questions, largement dépassant la France, et qu'on peut se poser de diverses façons. Donc ce colloque était vraiment intéressant, et en rencontrant M. Toulouse, qui lui-même venait de prendre la direction du musée, et se poser des questions sur la quatrième période des collections permanentes du musée des arts et métiers, c'est-à-dire la période des années 50 à aujourd'hui, qui n'était quasiment pas représentée, ou très peu en tout cas, dans la rénovation, ce questionnement nous a fait échanger longuement sur le sujet, et Ça a donné lieu, après différentes conversations, échanges de la part de M. Toulouse avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et avec nous-mêmes d'un point de vue beaucoup plus pratique, à la naissance de la mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain, pour lequel le directeur du musée avait reçu une lettre du ministère de la Recherche lui demandant de développer une mission de sauvegarde de ces instruments et de cette mémoire des 60 dernières années. Donc les objectifs de cette mission sont, vous les connaissez bien ici à Konit, bien sûr, puisque Konit et d'autres collègues sont ici aujourd'hui et font partie de cette mission. C'est bien sûr sensibiliser l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de recherche et les entreprises à la sauvegarde de ces objets qui sont jetés, ou qui étaient jetés en tout cas, de façon très régulière quand ils étaient obsolètes pour des raisons de place, pour des raisons de non-intérêt sur l'objet qui n'est pas toujours esthétique, qui sont souvent des boîtes noires et qui ne retenaient pas l'attention régulière de tous les scientifiques qui s'en étaient servis pour des raisons que vous connaissez très bien. Et qu'on a évoqué un peu, et qui malheureusement donc partait à la benne de façon massive. Donc ça, c'était l'enjeu, je dirais, essentiel au départ, c'est faire en sorte qu'on ne jette pas ces objets, qu'on les conserve, ce que faisaient déjà quand même individuellement quelques personnes, mais ce n'est pas une politique globale à l'échelle nationale. Ça n'intéressait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, particulièrement le monde du patrimoine, parce que c'était une période beaucoup trop proche en 96 et en 2003 encore, de notre quotidien, de notre vie quotidienne. Et en général, les gens du monde du patrimoine travaillaient à N-30, n'étaient pas habitués à travailler de façon aussi proche sur du patrimoine contemporain, en tout cas dans cette thématique-là. C'était aussi susciter l'organisation dans les régions donc, de partenariats et de mise en place de missions locales, qui s'appuyait sur une organisation, je dirais, identique dans la mesure du possible dans chaque région, c'est-à-dire un chef de projet, désigné bien sûr par les partenaires régionaux qui s'engageaient sur cette mission, et qui, de toutes les façons, regroupait l'ensemble des partenaires locaux, c'est-à-dire bien sûr les délégués à la recherche, les directeurs des affaires culturelles représentant les ministères concernés, les musées, les archives et bien évidemment les propriétaires des collections qui nous intéressaient ou des futures collections qu'étaient les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et les entreprises. Et puis un comité scientifique qui travaillait sur l'aspect repérage des objets et sur l'identification et la documentation, aidant ainsi le chef de projet à valoriser ces objets dans le cadre d'un inventaire, puisque la finalité était non seulement de sauvegarder, de sensibiliser et de sauvegarder, mais aussi de créer un inventaire national, mémoriel de ces objets et de ces savoir-faire visibles dans le cadre d'un outil qui est une base de données et ainsi dont on reparlera ensuite. Donc ce programme s'est généralisé petit à petit dans différentes régions françaises et était joint à cet inventaire, bien sûr, un ensemble d'actions de valorisation dont on reparlera après. Donc quel est le patrimoine plus précisément dont on parle aujourd'hui? Il s'agit donc des instruments scientifiques et techniques de la recherche publique, mais aussi des laboratoires de recherche des entreprises. Ce n'est pas forcément l'objet de production, l'objet de production étant le produit final qui nous intéresse aussi, mais on s'intéresse en amont du produit final dans l'entreprise à l'instrument qui a permis, soit qui a été créé à des fins de recherche ou des fins industriel autre, mais qui a permis aussi de créer le produit fini. Donc le patrimoine matériel, de l'instrument au produit industriel, les manuscrits, les cahiers de laboratoire, les documents associés, l'iconographie associée, tout ce qui permet de contextualiser l'objet. Le patrimoine immatériel, et là effectivement, là je reconnais qu'en Pays de Loire on a été quand même un petit peu pilote au départ, même si aujourd'hui beaucoup de régions maintenant font des choses assez remarquables dans le domaine, que vous pourrez voir dans notre site et sur leurs sites locaux, sur le patrimoine immatériel, et qui a permis de recueillir à la fois la mémoire vivante sous forme d'interview des chercheurs ou équipes, hein, pas uniquement le chercheur, son équipe, son laboratoire, et qui aujourd'hui a dévié vers des histoires de laboratoire ou des histoires d'objets. Donc un ensemble assez massif sur en tout cas dans certaines régions. C'est dans un ensemble assez massif sur cette sauvegarde de la mémoire qui reste toujours quand même un questionnement sur que faut-il garder, pourquoi et comment. Donc, pour revenir à la chronologie de cette mission, alors, qui a commencé en 2003, on l'a lancé en, en 2003 au Musée des Arts et Métiers. C'est, enfin, c'est le directeur qui l'a lancé au Musée des Arts et Métiers avec le ministère de la Recherche. Ça a été la première initiative et la première volonté de d'insérer et de développer un réseau. Ce réseau c'est vraiment, a vraiment commencé à se développer en 2004 avec deux premières régions, Midi-Pyrénées et puis Aconite-Grenoble, voilà, qui ont été les deux premiers porteurs, après Île-de-France et Pays-de-Loire bien sûr, mais qui étaient les organisateurs d'origine, ont été les deux premiers participants à ce réseau, qui aujourd'hui a inventorié 14 600 objets. De ce type dont je vous ai parlé, qui également a 40 000 médias dans une base de données, un site web dont je vous parlerai aussi dans quelques minutes, donc c'est-à-dire vidéo, iconographie et images, et qui, mais vous l'avez dit monsieur Duparchy, a de nombreux partenaires institutionnels à l'échelle nationale qui s'agrègent petit à petit à cette mission et à ce réseau, qui sont Météo France, le CNRS, le CEA à travers certains laboratoires, le CERN bien sûr, et puis des entreprises, la fondation EDF, Essilor, Michelin, etc. Donc voilà aujourd'hui la carte de France. J'ai mis 2012 parce que 2013 elle n'a pas forcément beaucoup évolué puisqu'on est en pourparlers. Donc la partie rose PACA est en pourparlers et va sûrement nous rejoindre l'année prochaine. La partie grise au centre également. Et la Basse-Normandie est en pourparlers pour de l'interrégion entre la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, ce qui veut dire que dans deux ans, on aura quasiment couvert l'ensemble de la France. La Picardie paraissant bien grosse ici, mais en fait se ralliera prochainement à une des régions autour, le tout est de savoir laquelle, c'est en pourparlers également. Alors la Corse, oui, la Corse est un peu à part, les dom-toms et la Corse sont un peu à part, on n'a pas encore essayé de trouver le lien, mais je pense qu'on devrait y arriver, sans problème. Voilà, donc l'organisation de la mission très rapidement, c'est une cellule donc, de coordination nationale qui est en fait représentée par peu de personnes. Vous verrez demain ma collègue Valérie Joyot, et aussi, au total on est trois ou quatre, ça dépend comment on compte, des conseillers scientifiques, mais heureusement un réseau très important dont je vous reparlerai, qui s'appuie donc sur différentes instances dont on a parlé tout à l'heure. Alors voilà plus précisément, mais je passerai assez vite, les représentations dans chaque région des porteurs des projets, que sont en général, en moyenne, comme vous le voyez, des universités ou des structures de recherche, comme des écoles d'ingénieurs comme l'INSA à Rouen, des musées comme en Auvergne avec le musée Lecoq par exemple, hein, ou des CNAM régionaux, mais généralement dans ce cas-là appuyés sur des structures universitaires propriétaires de collections. Donc le site web de ce, vous pouvez aller voir tous ces travaux réalisés par tous nos collègues au niveau du réseau qui transfèrent leurs données sous un ensemble de méthodologies que l'on a mises en place, et c'est le rôle de cette antenne nationale, c'est d'homogénéiser les contenus, sont visibles dans ce site, à la fois sous forme de film, c'est le deuxième bandeau, ou sous forme d'objets, c'est le premier bandeau, mais bien sûr, pour en savoir plus, il faut aller dans le moteur de recherche. Donc vous pouvez vous promener ici, je ne vous ferai pas une démonstration parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous le souhaitez dans la journée, je peux vous montrer plus de choses en détail, ou Aconite pourra le faire, bien entendu. Donc globalement, je passe très vite. On s'est amusé à faire une répartition des domaines, on le fait tous les ans, qui sont inventoriés le plus dans chaque région. Donc on voit que la santé et la physique et ensuite la chimie sont les domaines prédominants dans l'ensemble, sachant qu'il s'agit du domaine d'application, c'est-à-dire du lieu où se trouve l'objet inventorié, et non pas du lieu de fabrication de l'objet à l'origine. Donc je vous ai dit beaucoup de ressources existantes aujourd'hui qui sont transférées vers cette base nationale des sites locaux ou à partir de monopostes ou bientôt sur une nouvelle interface dans laquelle on pourra rentrer directement des données sur le web. et je vous ai donné le chiffre. Alors ça marche comment ? Ben, il y a une animation régulière, donc une journée nationale, deux ateliers. Le prochain est à Paris, accolé, comme vous le disait Monsieur Desparchy, à une prochaine journée nationale. Et puis un atelier en région tous les ans. Donc une région se propose, la prochaine sera en Bourgogne. Et l'année dernière, en avril, c'était à Montpellier. Beaucoup de formations, beaucoup de colloques, beaucoup de journées d'études. Et les prochains thèmes de la journée nationale, vous êtes les bienvenus, hein, c'est tout à fait ouvert, portera sur la formation tout au long de la vie et le patrimoine scientifique et technique, dont les trois régions que vous voyez là, partenaires, participeront, et puis la coopération, concept clé du réseau PATSTEC, et la nouveauté sera aussi de travailler avec le Musée des sciences et techniques d'Ottawa, qui nous fera une conférence vidéo en direct, puisqu'un partenariat est en train de poindre entre nous et les Canadiens de façon de plus en plus efficace et réelle. Une petite lettre que vous pouvez trouver dans le site, ainsi que les précédentes. Et puis, tout un ensemble, si on fait un bilan de ce qui s'est passé, chaque région fait des expositions. Il y a même eu au Musée Lecoq la création d'un département d'histoire des sciences que... imagé par la fiche qui est en haut à votre gauche. Et puis toutes les régions font de nombreuses expositions qui mériteraient vraiment d'être itinérées un peu partout, pardon. Beaucoup de professionnels qui se sont formés maintenant dans ce domaine du patrimoine, un investissement dans l'enseignement et dans la formation de nos chefs de projet ou de leurs collègues, et donc des invitations assez nombreuses maintenant à des colloques divers et variés, y compris internationaux. Donc tout ça correspond quand même à une diffusion de l'ensemble de la mission sur le territoire, mais même au-delà du territoire, à l'échelle européenne et internationale, et pas uniquement faite par la cellule, bien sûr, mais aussi par ses membres du réseau, ce qui est bien sûr l'objectif. Donc beaucoup de publications aujourd'hui, si on prend un peu de recul. Donc le petit livre bleu qui parle de la partie Pays de Loire, où effectivement Catherine était vraiment très très présente, et Daniel Toulouse aussi, bien entendu, et puis les différents ouvrages qui ont été coordonnés, soit par Marie Cornu, que vous entendrez tout à l'heure, comme un guide juridique, qui est un outil essentiel à notre réseau pour connaître l'histoire de la propriété des objets dans ces structures universitaires, et puis comprendre un peu les règles qui sont en place dans le cadre du Code du patrimoine et que l'on peut appliquer ou pas à nos secteurs. Et puis différentes publications, donc menées souvent par Catherine et Marie, qui, c'est vrai, ont été très présentes dans notre réseau depuis le départ. Et des DVD-ROM et outils multimédia sur ces histoires de chercheurs et de laboratoires. Récemment, à la demande de beaucoup de nos chefs de projet et puis de notre conseil scientifique, un petit comité mené par toujours un peu les mêmes, Catherine, Marie, Daniel Toulouse et d'autres, ont permis de mettre en place depuis 2012, 4 fois par an, des séances de séminaires autour de ce thème du patrimoine contemporain, scientifique, technique, culture et société, qui permet de transversaliser un petit peu plus notre travail et surtout de réfléchir sur cette thématique, et auxquelles participent également nos chefs de projet. Donc la prochaine séance, c'est le 3 décembre, sur public, patrimoine, culture, scientifique et technique. Si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. Et enfin, je finirai en expliquant que pour nous, c'est important de continuer à étendre ces partenariats vers les entreprises, vers les acteurs du développement régional, vers en relation avec les pôles de compétitivité quand c'est possible, pour être sûr, quelque part, entre guillemets, ce qui, à mon avis, est un peu un contresens, mais de ne pas oublier de l'information, qui est la difficulté quand on fait de la sauvegarde, je dirais, in vivo. C'est comment faire pour ne pas oublier des éléments de l'information. Il est évident qu'on oubliera plein de choses et qu'on n'a pas forcément toujours assez de recul pour ne pas oublier, mais on essaie quand même de contextualiser ce cadre, d'affirmer ce cadre, pardon. Et ce développement à l'international qui pour nous est majeur, en tout cas c'est un souhait du directeur actuel, M. Chambaud, et qui s'est matérialisé aujourd'hui par un réseau francophone auquel participe activement Aconit sur la sauvegarde des collections informatiques, bien sûr, dont il est un acteur majeur, avec la Maison de la Métallurgie à Liège et différentes structures francophones surtout. Un réseau qu'avait initié l'Auvergne, Nathalie Vidal est ici aujourd'hui, avec le musée Lecoq, qui est donc partenaire un projet européen qui s'appelle Previca, sur tout ce qui est mécanique et qui fait l'objet d'une base de données et d'un site qui porte sur tout ce qui est mécanisation. et qui est un magnifique outil sur cette thématique. Un réseau des universités wallonnes qui est en construction depuis 2 ans, mais qui prend réellement forme à cheval sur les différentes universités, porté par Robert Halleux et le vice-recteur de l'Université de Liège. Un réseau Esther qui s'appuie, alors ça créé par le musée suite à un dépôt de programme, enfin de projet, pardon, de consortium entre plusieurs musées et universités européennes, et qui s'appuie sur le Dutch Museum, le Science Museum, le musée Leonardo da Vinci en Italie, à Milan, et puis bien sûr le musée des arts et métiers, et qui travaillent activement ensemble à des best practices à trouver et à mettre ensemble, mais aussi sur un projet commun de sauvegarder et de réfléchir à l'intérêt de ce patrimoine contemporain. Et enfin, une ouverture, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les Canadiens, le MIT, qui est assez importante. Voilà, alors j'ai fini, mais je pense que cette photographie vous révèle la problématique que tout le monde retrouve sur le terrain pratico-pratique au quotidien. C'est que faut-il garder, pourquoi, comment. Car malgré 10 ans de la mission, la question perdure, et je pense qu'on mettra un certain temps avant de répondre à ce questionnement. Voilà, je vous remercie beaucoup.